Et bienvenue sur CFM Cahors dans cette série de magazines que nous enregistrons à l'extérieur aujourd'hui, devant même l'office de tourisme. Pourquoi ? Parce que c'est les vacances bientôt, la saison touristique a peut-être même déjà commencé. Comment ça va se passer ? Peut-être qu'un jour on aura la réponse aussi, pourquoi pas ? Et une chose est sûre, c'est qu'on va essayer de vous faire découvrir des choses ici dans le Lot que peut-être même vous, en tant que cadurcien, vous vous êtes dit « Bah ouais, j'y suis jamais allé au final ». Alors on va essayer de vous donner envie d'aller par exemple à la plage au Ptérosaure, parce qu'effectivement c'est pas très loin d'ici, cette plage-là. Et en plus, il se passe pas mal de trucs, vous allez voir. Et nos invités, c'est avec nous, il y a le responsable du site justement de la plage au Ptérosaure, Alexandre Ittier. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Et puis tu as amené avec nous Léonie Mareuil qui est médiatrice. Bonjour Léonie.
Bonjour.
Le rôle de la médiatrice dans ce genre d'espace, c'est quoi ?
C'est de pouvoir interpréter les dynamiques scientifiques dans notre compétence et de pouvoir les transmettre au public.
Alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, que tu as une formation spécifique à l'archéologie ou la paléontologie, peut-être ? Faut pas que je me trompe, paléontologue.
Oui, en archéologie, moins en paléontologie, mais je suis formée aussi en tant que médiatrice patrimoniale, scientifique. Ouais.
La plage au Ptérosaure, pour simplifier, pour ceux qui ne sont jamais venus, qui n'ont jamais vu, qui ont peut-être entendu parler, qui se disent « ouais, bof », est-ce que c'est quoi, déjà, dans un premier temps, la plage au Ptérosaure ? On remonte il y a très longtemps ?
On remonte à la fin du Jurassique, à peu près 150 millions d'années. Donc c'est une plage, mais qui est fossile. Et dessus, on va retrouver les empreintes de tous les animaux qui sont passés ici il y a 150 millions d'années.
Donc il y a la mer ?
Il y avait la mer, il y a 150 millions d'années. Elle n'y est plus, depuis un petit moment déjà.
Et c'est pour ça qu'on appelle ça la plage, parce qu'il y avait la mer, mais...
Il y avait la mer, on était vraiment en bordure de plage, donc en bordure de mer sur une plage. Donc on était dans la zone de balancement des marées. Et à chaque marée, les animaux passaient et laissaient leurs empreintes dans la boue.
Alors donc ces empreintes, comment elles ont été découvertes ?
Alors l'histoire est longue sur la découverte des empreintes. Déjà dès le milieu des années 70, il y a eu des signalements d'empreintes dans les carrières de Cressac. Ça a été resignalé et décrit, il y a une empreinte qui a été décrite en milieu des années 80 par des géologues. Elle a été trouvée sur un dallage dans un restaurant pas très loin d'ici. Et puis après, ce sont des paléontologues amateurs qui cherchaient des fossiles classiques dans les déblais de la carrière. Ils sont tombés sur des plaques avec des empreintes. Et parmi ces amateurs, il y en a un qui l'a signalé aux scientifiques. C'est Gérard Laforie qui l'a signalé à l'époque. Voilà comment l'histoire a commencé.
Et alors ça s'est enclenché, la suite, ça s'est enclenché comment ? Parce que finalement, en faire un site de loisirs, c'est pas évident non plus. Premièrement, il faut protéger, j'imagine, c'est ce genre d'endroit. Et deuxièmement, il faut faire venir les gens, c'est aussi très risqué, non ?
Alors pas forcément. En fait, il y a plusieurs cycles qui se sont passés sur site. Le premier, en fait, c'est la phase d'exploitation scientifique. Donc là, qui est menée par des paléontologues avec des étudiants bénévoles. C'est comme ça que j'ai commencé sur ce site il y a un peu plus de 20 ans. Donc ça, c'est vraiment la première phase. Après, on a été confronté pendant très longtemps à un problème de protection, puisque les niveaux sont extrêmement fragiles. Donc il a fallu trouver des solutions pour protéger ce site. Et malheureusement, en France, ce patrimoine géologique n'a pas de valeur légale. Il n'y a pas de protection, contrairement à l'archéologie.
Ah d'accord.
Donc il a fallu trouver des moyens, des financements pour protéger ce site, sachant que l'État ne reconnaissait pas ça comme du patrimoine, ce qui complexifie vraiment la chose. Donc finalement, comme il y avait déjà eu un attrait quand même assez particulier du public, des curieux, sur ce site, l'idée pour mettre en place une protection, c'était d'allier justement la mise en tourisme et la recherche. Et c'est grâce à ça qu'on a pu arriver à protéger le site. C'est-à-dire que le bâtiment a vraiment été financé dans un cadre un peu particulier de création de sites touristiques.
Est-ce que les visiteurs sont au rendez-vous ?
Oui, on développe de plus en plus. C'est aussi, nous, il nous faut un petit peu de temps pour développer parce que le site est classé maintenant depuis 2015. Donc il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, mais on y va doucement et sûrement. Donc ça augmente chaque année. Et surtout, on profite de chaque intersaison pour développer du nouveau contenu et des nouveaux outils de médiation.
Et est-ce que c'est un endroit aussi qui fait encore l'objet d'études, ou est-ce que finalement on sait tout ?
Alors non, on ne sait pas tout. C'est un endroit qui peut livrer encore beaucoup d'informations sur les décennies qui suivent. Mais à l'heure actuelle, il y a une pause. Voilà, c'est-à-dire que c'est assez grisant hein, de fouiller. Hein.
Ouais.
Voilà, de trouver des choses, c'est vraiment la partie la plus plaisante. Mais on a aussi trouvé beaucoup de choses. Donc là, il était nécessaire de marquer une petite pause pendant quelques années, au moins dans les fouilles, pour se consacrer justement à l'étude scientifique.
Léonie Mareuil, qu'est-ce que c'est qu'un ptérosaure? Parce que c'est vrai que finalement, on se mélange un petit peu dans les dinosaures. Par exemple, à l'Ichnospace, à Luzèche, il y a un grand dessin d'un grand dinosaure qu'on pourrait prendre pour un diplodocus, et en fait, c'en est pas un. Mais alors, le ptérosaure, c'est quoi au final? Maintenant, je le sais parce qu'on me l'a expliqué, mais c'est quoi?
Le ptérosaure, disons que c'est un reptile volant, mais en fait, les ptérosaures, il y en a plein. Ça évolue sur 160 millions d'années, presque tout le Mésozoïque. De toute façon, on est sur une ère où on a plein d'animaux, des dinosaures, donc des vertébrés avec des reptiles, etc. Et il y a des invertébrés, il y a plein d'habitants. Et le ptérosaure fait partie de ces animaux qui vivent à ce moment-là.
Et ça veut dire que là, en 2022, il y a des ptérosaures sur Terre?
Non, il n'y en a plus.
Et c'est quoi les descendants alors?
Des ptérosaures, il n'y en a aucun.
Il n'y a aucun descendant,
non,
finalement.
Non, ils se sont éteints en même temps que la plupart des dinosaures. Et par contre, les dinosaures, on en a quelques traces encore des descendants aujourd'hui.
Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait d'autres dinosaures à ce moment-là, dans cet endroit-là?
Ah oui, alors c'est pour ça que la plage aux ptérosaures, elle est assez extraordinaire, parce qu'elle est quand même le témoignage d'un grand écosystème au bord de la plage. Donc, on a des ptérosaures, il y a des dinosaures, des invertébrés.
Et c'est ça que vous expliquez dans cet endroit, c'est peut-être ton rôle justement de médiatrice?
Oui, en effet, c'est de pouvoir appréhender cet espace-là, cet environnement, ce climat qui est lisible en géologie, enfin, quand on observe un petit peu ces cailloux, cette roche, et toutes ces traces, ces empreintes qui sont aussi de grands objets utiles, complémentaires pour la recherche.
Un petit mot très sympa d'ailleurs sur la communication que vous avez faite avec le partenariat du cinéma Le Grand Palais pour la sortie de Jurassic World. Alors là, je pense que cet été, vous allez revoir du monde. Est-ce que... Alors, on va expliquer aux auditeurs, c'est que vous aviez fait un petit montage vidéo avec un dinosaure qui se déplaçait pour aller direction Le Grand Palais. Et le jour de la sortie du film, il y avait une animation spéciale, il y avait même un dinosaure. Alors évidemment, c'est une mascotte, hein, mais qui bougeait, etc. Est-ce qu'effectivement, ce genre de film, Alexandre Ithier, c'est ce qu'il faut pour faire venir les gens? Est-ce qu'on va re-assister, comme au moment du premier film Jurassic Park, est-ce qu'on va re-assister à un engouement de nouveau pour les dinosaures?
Alors l'engouement, il ne s'est jamais vraiment arrêté. Il y a vraiment un engouement, surtout chez les enfants. Après, là, c'était de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on a des nouvelles techniques maintenant qui nous permettent d'incruster des dinosaures partout où on veut. Donc là, avec le cinéma, c'était ça, c'était de la réalité augmentée. Et ça montre aussi que c'est des nouvelles techniques de médiation. Alors après, en effet, à chaque sortie de film, y a un nouvel élan, il y a une nouvelle génération contaminée par les dinosaures. Et on n'a pas forcément besoin de ça, nous, mais c'est un petit peu la conclusion en fait, scientifique de tout le travail qui a été fait. C'est-à-dire que nous, on est sur des empreintes. Et à partir des empreintes, il faut arriver à décrypter toutes les traces pour essayer de remonter au coupable. Et c'est vraiment un travail qui est assez difficile, qui peut être complexe, et surtout on n'arrive jamais vraiment au résultat. Mais au final, une représentation de dinosaures, c'est la conclusion du travail, des empreintes, de tout le travail qu'on a fait pour identifier ce coupable.
Léonie, quand tu regardes Jurassic Park, est-ce qu'il n'y a pas des détails des fois qui t'énervent? Des choses qui, juste comme ça, par curiosité, des choses, ça va les gars, on voit que c'est du cinéma quoi.
Non, on n'est pas énervé.
Non, à peine.
Non, pas du tout. C'est une manière aussi de donner aux gens des finalités, des recherches, de la science, etc. Tout ça, la paléontologie, la géologie, semble être des domaines un petit peu spécifiques et inaccessibles. Et en fait, non. Et Jurassic Park fait partie de cette transmission aussi. Pourquoi pas, la plage aux ptérosaures, dans notre travail de médiation, Alexandre et moi... aussi.
Parce que j'imagine que quand vous faites votre visite guidée, il y a bien des enfants qui demandent s'il y avait des T-Rex.
Bien sûr.
Et alors, la réponse ?
Non.
Il n'y avait pas de T-Rex. Ça, c'est décevant,
pas,
finalement.
Pas là où nous nous trouvons, mais il y a plein d'animaux là où nous nous trouvons et qui ne sont pas aussi, en effet, peut-être qui ne sont pas des stars comme on pourrait les connaître. Mais...
Alors, comment on donne envie, je ne sais pas si toi, Léonie ou Alexandre, là, les personnes qui nous écoutent, comment on peut leur donner envie, finalement, de venir voir ? Parce que peut-être qu'ils peuvent être déçus. La plage au ptérosaure, pourquoi j'irai voir ça, au final ?
Bon, en fait, ils arrivent souvent comme ça, en disant « ouais, bof ouais. ». Et en fait, c'est en repartant qu'ils sont très contents. Donc, ça veut dire qu'on a fait notre travail et que le site a parlé. Ce qui est intéressant, nous, c'est vraiment on est sur un lieu de vie. Il y a 150 millions d'années. Donc, effectivement, il n'y a pas de T-Rex parce qu'il va falloir attendre des dizaines de millions d'années avant de voir un T-Rex sur la planète. Mais on a des dinosaures carnivores, plutôt de petite taille, mais c'est aussi ça qui fait toute la force du site, c'est le détail. C'est-à-dire que les empreintes sont tellement belles qu'on oublie les 150 millions d'années qui nous séparent de ces animaux. Et c'est vraiment du coup ça qui est magique. Et comme c'est un lieu vivant, ben, les empreintes, c'est vivant. Un site paléontologie classique, c'est des ossements, on est sur un cimetière en fait. Là, c'est vraiment le lieu de vie. Donc, il y a des animaux qui vont marcher, qui vont courir, qui vont tourner. Donc, on a vraiment l'impression d'y être. Et nous, notre travail, c'est d'arriver à expliquer ce que peut être la science. Voilà, ce qu'est la paléontologie, mais de manière sympa. Voilà, l'idée, c'est quand même de passer un bon moment, mais c'est quand même d'essayer de transmettre des notions qui sont importantes et qui sont importantes aussi après dans le parcours de chaque... individu, hein.
Pour la petite histoire, il y en a qui, qui se mélangent avec la nomination plage. Hein.
Oui, ça peut arriver. Donc là, on a peut-être encore du travail sur la communication à faire. Effectivement, il ne faut pas venir se baigner à Cressac. Il y a le lac vert pas loin, c'est très bien.
Ouais.
Mais nous, il n'y a vraiment pas d'eau.
Parce que vous avez vu des gens arriver en tenue de plage ?
Ça arrive.
Ça arrive ?
Ça arrive de moins en moins, mais ça a arrivé pendant de nombreuses années.
Qui est-ce qui me parle de cette place qui est en reproduction d'ailleurs à l'Ichnospace de l'Uzèche, de cette grande, de ce morceau de terrain?
Oui, c'est un moulage qui a été réalisé. En fait, si on parle vraiment du gisement, il est très vaste. C'est-à-dire que ces niveaux empreintes sont présents sur Cressac, mais dans d'autres communes autour. La plage au Pterodore, c'est vraiment un échantillon très précis qui a été fouillé de manière méthodique. Et une zone où il y a beaucoup de détails. Mais ces empreintes, on peut en retrouver, il y en a aussi à Figeac, hein, des empreintes de dinosaures, on en retrouve un petit peu partout. Donc il y a une carrière à Cressac qui a livré des empreintes de gros dinosaures sauropodes. Et donc là, c'est une équipe de Paris qui a étudié ça. Et donc le carrier, là, dans ce cas-là, ne voulait pas laisser la carrière. Il ne pouvait pas, tout simplement. Donc ils ont décidé de faire un moulage et il est présenté à l'Ichnospace. Et ça montre aussi, justement, qu'on peut avoir une vision très précise sur la plage au Pterosaure, mais si on s'élargit, on va avoir une vision de l'ensemble de la région au Jurassique, en gros, il y a 150 millions d'années.
Léonie Mareuil, ces traces, ces ptérosaures, comment ils ont disparu ? Comme tout le monde ? Ou un petit peu avant ? Alexandre, Léonie ?
En fait, ils se sont éteints il y a à peu près 66 millions d'années. Il n'y a aucun descendant à l'heure actuelle. Alors, il y a toujours des débats pour savoir pourquoi eux ont disparu. En principe, quand il y a un grand changement, donc là, météorite, volcanisme, assez classique et connu, c'est souvent les animaux les plus spécialisés qui vont disparaître en premier. Et les ptérosaures étaient déjà sur la planète depuis très longtemps.
D'accord.
Et étaient extrêmement spécialisés. Ce qui peut expliquer pourquoi eux ont disparu et pas les oiseaux, qui sont les descendants directs des dinosaures bipèdes carnivores. Donc voilà, à chaque crise, il faut pouvoir s'adapter. Et c'est vrai que si on est trop spécialisé, en principe, c'est pas très bon.
Alors c'est quoi un dinosaure spécialisé alors ?
C'est surtout qu'il est adapté à son environnement. Donc plus ces animaux se sont adaptés au cours du temps, plus ils vont être spécialisés. C'est-à-dire que les ptérosaures, c'est des reptiles volants déjà, donc c'est des animaux qui vont occuper des niches un petit peu particulières. Et puis après, les espèces vont vraiment se spécialiser, ne serait-ce que pour l'alimentation. Mmh. Certains vont manger que des crustacés, d'autres vont manger des insectes, d'autres vont broyer des coquillages, etc. Par exemple, si on prend un crocodile, lui, il mange à peu près n'importe quoi. Voilà, ça passe devant, il ouvre la bouche et il ferme, et il ne va pas manger très souvent. Donc, ça explique aussi pourquoi peut-être ces crocodiles, eux, ont survécu, et pas ces ptérosaures qui, eux, étaient très spécialisés, notamment dans le régime alimentaire.
Et alors, ils mangeaient quoi, les ptérosaures ?
Un peu tout. Ça dépend du ptérosaure.
Est-ce qu'il était carnivore ? Il était,
non, globalement, non, en fait, ils vont plutôt être piscivores, donc ils vont manger du poisson, mais il y en a qui mangent des coquillages, d'autres qui mangent des insectes, d'autres qui vont broyer des coquillages. Il y a vraiment des régimes alimentaires très différents suivant les ptérosaures. Nous, on est sur une plage, une immense vasière, Donc ils viennent vraiment, ils venaient à la plage vraiment pour manger les crustacés, les poissons qui étaient piégés dans les grandes flaques, etc.
Ça doit être impressionnant quand même quand on se retrouve face à toutes ces preuves, à toutes ces, comment dirais-je, toutes ces études scientifiques. Déjà, à la base, quand moi je suis arrivé dans l'Hot, apprendre que dans l'Hot il y avait des dinosaures, alors évidemment, il y en avait partout, bien sûr, mais à la base, on n'imagine pas que si proche de ça, on avait effectivement des dinosaures.
Il y avait des dinosaures, et puis surtout le Lot est très très riche. Hein. C'est pour ça que le site a été classé en réserve naturelle nationale d'intérêt géologique. Donc c'est une réserve qui couvre plusieurs sites sur le département. Donc il y a la plage aux Pterosaures, mais il y a aussi les Phosphatières et d'autres sites un peu partout. Donc le Lot est très riche, tout simplement parce qu'il est constitué d'un socle jurassique. Et voilà, toute la pierre, c'est à l'époque du Jurassique, donc à l'époque des dinosaures. Donc on va retrouver ces traces.
Alors comment il faut s'équiper, Léonie, quand on veut venir visiter? Comment je viens? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial? Il faut se couvrir parce qu'on est en souterrain? Est-ce qu'on vient tranquille? Comment ça se passe?
Non, alors la visite, elle s'effectue donc, dans un bâtiment qui a été mis là pour préserver les surfaces.
Donc s'il pleut, c'est génial?
C'est génial. S'il fait chaud, on reste en débardeur. S'il fait froid, on garde un pull.
Et la visite dure combien de temps?
La visite, elle dure une heure. Elle dure une heure de... Oui, c'est ça. Oui.
Elle dure une heure. Il y a tant de choses à raconter pendant
une heure. Oh, mais il y en aurait encore plus.
Qu'est-ce qui te fascine, toi, chez le dinosaure, pour t'être intéressé? Parce que j'imagine qu'il faut quand même un certain, comment dirais-je, une certaine passion, un certain intérêt pour ce genre de petites bébêtes.
Alors, il n'y a pas que les dinosaures. Il y a aussi l'appréhension déjà du sol. Tout à l'heure, je vous le disais, c'est vrai que la géologie, ce sol mort, cette roche, ce caillou, il est emprunt, c'est la traduction de beaucoup d'histoires, de l'environnement et du climat. Et c'est ce qui est d'ailleurs assez extraordinaire sur la plage. Comme le disait Alexandre, on a des témoignages, des instants T, des stries d'oscillation, des gouttes de pluie. Moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup
impressionné. Des gouttes de pluie fossilisées?
Des gouttes de pluie, plein de choses comme ça, où on a vraiment l'impression où le temps s'est figé. Et puis ensuite, on a des animaux qui se sont déplacés là. Et oui, les dinosaures sont extraordinaires, les ptérosaures sont extraordinaires, mais les traces de crevettes sont aussi magnifiques. Le broutage d'un vertébré m'a beaucoup impressionnée. C'est des toutes petites choses.
Alors, tu veux dire que là, ce sont des choses, le broutage d'un vertébré, on peut le voir à la plage aux ptérosaures ou,
Alors, c'est des surfaces qui sont un petit peu inaccessibles. En fait, beaucoup de surfaces, toutes les surfaces d'ailleurs, sont protégées par des petite barrière et donc le public ne peut pas forcément venir les toucher. C'est une question de préservation, de sauvegarde. Donc il y a certaines choses, certains éléments qu'on ne peut pas forcément faire appréhender tout de suite au public. Mais oui, les petits broutages d'escargots, si on me le demande, je peux le montrer. C'est très mignon.
Et alors la crevette, ça ressemblait à quoi à l'époque? À une crevette comme...
Alors ça ressemble un peu aux cloportes d'aujourd'hui.
Ah ouais.
Voilà, c'est un petit crustacé comme ça, avec les petites pattes, et c'est le seul endroit du site où on peut réellement remonter aux coupables, puisqu'on a retrouvé plusieurs fossiles de ces crevettes en bout de piste. Voilà. Donc on sait que c'est Archaeoniscus, voilà, une petite crevette qui faisait 1 cm de long et 0,5 cm de large, qui a laissé toutes ses empreintes, c'est-à-dire qu'on peut les suivre sur plusieurs mètres. Et ça montre vraiment, c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est ce détail-là. Ces empreintes, même si elles ont 150 millions d'années, elles sont quasi parfaites. Elles sont parfaites, ouais. Et c'est vraiment ça qui fait la force du site.
Et ça fait partie de l'alimentation du ptérosaure, la crevette?
Oui, très certainement.
Donc est-ce qu'on a retrouvé des... Déjà, il en fallait beaucoup, si ça fait qu'un centimètre. Quand tu vois là... Parce que le ptérosaure, Léonie, il mesurait combien
Il y en a de plusieurs sortes. Nous, on a des individus plutôt petits, moyens.
Oui, nous, en gros, les ptérosaures, c'est de 20 cm jusqu'à 11 mètres.
Ah oui.
D'envergure.
Ah oui, il y a de la marge.
Il y a de la marge.
Ouais.
Nous, on est plutôt au Jurassique, déjà, la gamme est plus petite. Voilà. et nous, vraiment, sur cette plage, on a plutôt des petits animaux. Donc, les ptérosaures, au maximum, pour l'instant, on va être 2, peut-être 3 mètres maximum.
Mais mine de rien,
c'est déjà pas mal.
Bah, si ça mangeait des crevettes, il en fallait énormément. Parce que la crevette, 1 cm,
oui, voilà,
ça pesait combien?
Alors... Les estimations de poids, c'est toujours très compliqué en paléontologie. On a beau se documenter, suivant le paléontologue, ça varie beaucoup. Donc j'aime pas trop me lancer là-dedans, parce que ça sous-entend en fait que pour l'instant, on n'est pas en mesure de déterminer réellement le poids. Mais ce sont des animaux extrêmement légers. Un ptérosaure, ça va être quelques centaines de grammes. Ils volent, hein, ils sont parfaitement adaptés au vol. Donc c'est des animaux très légers, très fins. Leur squelette est parfaitement adapté au vol. Donc nos petits ptérosaures, oui, ils viennent, mais comme sur une vasière aujourd'hui, hein, les oiseaux vont venir manger à longueur de journée. Nous, c'est certainement ce qu'il y avait ici il y a 150 millions d'années.
Est-ce qu'ils se servaient de ses coudes pour marcher ?
Alors, c'est pas les coudes. Alors, les ptérosaures, c'est vraiment c'est un peu particulier hein, quand même. Comme il n'y a pas de descendant aujourd'hui, c'est assez difficile.
Parce qu'on ne sait pas si c'est un oiseau, il n'y a pas de...
C'est un reptile volant, en gros, ouais. C'est vraiment un cousin des dinosaures, des crocodiles. Et un ptérosaure, en fait, il va avoir 4 doigts sur la main. Il en a 3, les 3 premiers sont assez, on va dire, normaux et griffus. Et le 4e, lui, est vraiment totalement démesuré. Et c'est ce doigt très long qui porte une membrane reliée au reste du corps. Et c'est ça qui fait l'aile des ptérosaures. Et en fait, quand ils viennent au sol, c'est la main qui est posée mais c'est vrai que sur les représentations, qu'on n'est pas habitué, on a l'impression que c'est le coude,
ouais.
Parce qu'il y a un grand truc qui remonte, mais le grand truc qui remonte, en fait, c'est pas le reste du bras, c'est juste un doigt extrêmement long qui est replié.
D'accord. Donc tout cela, c'est scientifiquement prouvé, vous avez des expositions qui expliquent, vous avez Léonie en médiatrice qui arrive, donc finalement, on vient, on ne s'ennuie pas, et au contraire, on apprend des choses en s'amusant, Léonie, peut-être ?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a des ateliers ? Est-ce qu'il y a...
Alors on a des ateliers pédagogiques que pour l'instant on développe donc pour les classes, après pour l'ouverture au public, ce sont des médiations scientifiques qui durent une heure à l'intérieur du bâtiment. Et oui, on s'amuse, les gens quand ils viennent en général, ils sont curieux, ils sont ouverts à pas que de l'amusement, il y a beaucoup de curiosité, d'interrogation, on se replace dans le temps, dans l'espace et dans toutes les appréhensions que l'on a sur les animaux du Jurassique, donc les dinosaures, les reptiles, les invertébrés, etc.
Pas que les enfants d'ailleurs qui sont épatés, hein, j'imagine.
Alors les adultes, alors les enfants des fois sont très surprenants. Disons qu'ils connaissent des fois beaucoup plus de choses que les adultes sur tous ces sujets-là.
Ouais.
Et les adultes sont souvent très agréablement surpris de pouvoir appréhender ça de façon pratique. On a beaucoup d'observations, c'est aussi le but de venir, hein, de pouvoir observer. Alors oui, on ne peut pas toucher, mais on peut détailler un petit peu, appréhender dans le vif du sujet.
Est-ce qu'on arrive à imaginer finalement, est-ce que les gens qui viennent arrivent à imaginer finalement quel était cet animal en dehors d'un dessin ? Est-ce qu'ils vous ont expliqué peut-être parfois qu'ils arrivaient finalement à mieux comprendre cette bête ?
Le ptérosaure ?
Ouais.
Ils sont toujours très surpris de voir les squelettes de ptérosaures, parce que c'est vrai que le squelette de ptérosaure est un peu particulier. Il a des membres un petit peu disproportionnés. Il a comme ça un faciès, si on plisse les yeux et qu'on voit flou, d'oiseau. Mais en fait, pas du tout, c'est un reptile. Donc c'est un animal qui a une mâchoire, qui quand même a une membrane pour se déplacer dans les airs, etc. Et quand on voit le squelette, oui, en général, le public est plutôt surpris. Puis petit à petit, en fait, on explique le squelette, comment se font les articulations, etc. Et c'est tout à fait compréhensible et appréhendable. Donc ça, après, ça devient normal.
Vous êtes ouvert de quand à quand alors ? La plage aux ptérosaures,
Alexandre ? On a ouvert au mois d'avril et on termine le 6 novembre. Voilà, avec des visites plutôt le matin ou en tout début d'après-midi pendant l'été, pour laisser place à la baignade, on va dire, l'après-midi, puisque le site est quand même une ancienne carrière, donc il peut faire assez chaud. Et voilà.
Bon, et réservation des billets, j'imagine, je crois qu'on peut le faire en ligne aussi. Hein.
Ouais, on peut réserver en ligne et la réservation est obligatoire parce que nous sommes limités à 25 personnes pour vraiment être en petit comité, pour bien avoir le temps d'échanger, d'appréhender tout ce qu'on peut montrer.
Le site internet, c'est ?
C'est plageopterosaure.fr.
Tout simplement.
C'est tout simple, il faut arriver à écrire pterosaure, mais c'est assez simple.
Eh bien merci, on invite donc tous ceux qui nous écoutent à aller voir cette plage aux ptérosaures, donc réservée, hein, on l'a bien compris, réservée avant parce que j'imagine que c'est fait pour protéger le site aussi, qui est peu de monde, hein, sinon au bout d'un moment. Donc on réserve sur le site de la plage aux ptérosaures. Et puis évidemment, merci Alexandre Ittier, j'imagine qu'on vous voit aussi sur place des fois faire de la médiation, j'imagine.
Oui, tout l'été.
Tout l'été,
bon, sur la place.
Eh bien super. Merci Léonie Mareuil, merci. Médiation tout l'été aussi. Très bien. Et merci d'être venu en tout cas ici devant l'office de tourisme. Si vous entendez du bruit, c'est parce qu'on enregistre au moment où il y a les répétitions, enfin la balance du festival Let's Doc. Donc voilà. Et puis on est dehors, on est bien, il y a la fontaine à côté, il y a du beau soleil, c'est ça qui est bien. Merci d'être venu.
Merci.
La plage aux ptérosaures pour vous. C'est la fin de ce magazine que vous allez retrouver en podcast sur cfmradio.fr et puis également en réécoute, en rediff à 17h et 21h30. Dans un instant, le journal.